Bonjour, et bien nous nous retrouvons avec Elisabeth pour la lecture de l'encyclique du pape, Loué sois-tu, des mots de la foi donc. Dans la dernière émission, nous avions évoqué les questions politiques que le pape aborde, puisque après le voir, le juger, l'agir, justement, l'agir, c'est aussi dans le domaine politique que cela se joue. Le pape avait souligné le drame de l'immédiateté politique et du rôle important des citoyens, puisque s'il y a le court terme dans le monde politique, seuls les citoyens peuvent arriver à demander, à favoriser des politiques de coopération qui soient favorables au bien commun et pas simplement à la réélection d'un candidat, en soulignant le rôle de la continuité. Et justement, dans ce que nous allons voir aujourd'hui, il est question de la transparence dans les processus de prise de décision, pour que les citoyens, bien informés, puissent participer aux décisions politiques, et bien évidemment, il faut qu'ils aient l'information et qu'on ne les écarte pas en disant « oui, mais vous ne savez pas, mais vous n'êtes pas spécialiste » et on voit bien le nombre de fois où, lorsque vous avez un avis, on vous écarte en disant « mais laissons le spécialiste » ou des audits qui se succèdent, qui aboutissent dans les tiroirs et on ne change rien. Donc, dialogue et transparence dans les processus de prise de décision, c'est au numéro 182.
Oui, et le pape précise bien qu'il faut faire des études d'impact sur l'environnement des décisions avant l'élaboration des politiques, dès le début et de manière interdisciplinaire, transparente et indépendante de toute pression économique ou politique.
Alors, donc voilà déjà quelques qualités qu'il propose. Et puis, il évoque aussi que cette information, elle doit donner une large place aux habitants locaux. Une place privilégiée, dit-il.
Parce que les habitants locaux se demandent ce qu'ils veulent pour eux, pour leurs enfants. Ce sont eux qui peuvent considérer des objectifs à long terme. Et le pape revient sur cette idée de dépasser l'intérêt économique immédiat.
Et alors il propose d'ailleurs, je cite, « cesser de penser en termes d'intervention sur l'environnement pour élaborer des politiques conçues et discutées par toutes les parties intéressées ». Donc une participation aussi, mais une participation qui exige que tous soient convenablement informés sur les divers aspects. Donc on ne rejette pas la technique.
Non, mais on apprend à considérer les conséquences des modifications sur l'environnement.
Et alors il pose aussi la question du légal et du moral. Parce que souvent, dans les discussions, on dit « oui, mais ça c'est légal ». Et alors, après tout, on peut faire remarquer qu'à Athènes au 5e siècle, l'esclavage était légal.
Oui. Et ce qui est moral, ça dépasse. C'est autre chose
voilà.
Que ce qui
donc,
est légal.
Donc, l'importance du retour de la morale, alors appelons-le l'éthique. Éthique, c'est le mot grec, morale, c'est le mot latin, mais c'est exactement la même chose. Et au numéro 184, il propose que les décisions soient fondées sur une confrontation entre risques et bénéfices envisageables, notamment en tenant compte d'un certain nombre de questions.
Oui, c'est quand on utilise des ressources naturelles, qu'il y a des émissions, des rejets, la production de déchets, il faut se poser de ces questions, leur impact sur le paysage, l'habitat des espèces protégées, un espace public, tout ce qui peut affecter la qualité de vie. Par exemple, une pollution acoustique dont on ne s'était pas avisé, qu'on n'avait pas prévu. La réduction du champ visuel, la perte de valeur culturelle.
Oui, lorsqu'on déforeste en Amazonie, c'est vrai que les indigènes qui sont là sont obligés de déménager.
Et dans le même genre, le pape mentionne les effets de l'utilisation de l'énergie nucléaire.
Et ce qu'il met en cause, d'ailleurs, c'est plutôt la priorité au court terme et à l'intérêt privé, qui va même jusqu'à la dissimulation d'informations. Et on a vu récemment dans des affaires concernant la santé publique qu'effectivement, il y avait cette dissimulation d'informations. Et alors il invite, c'est au numéro 185, de se poser une série de questions.
série de questions autour d'une initiative, c'est pourquoi, par quoi, où, quand, de quelle manière, pour qui, quels sont les risques, à quel coût, qui paiera les coûts, comment le fera-t-il ? Il y a toutes ces questions à se poser dans le processus de discernement.
Donc, on voit bien les enjeux que cela pose, notamment, par exemple, dans l'exploitation des produits miniers. Pourquoi, par exemple, exploite-t-on le coltan dans les pays qui sont mal développés alors qu'ils n'ont même pas l'eau potable ? Pour qui ? Pour nos téléphones portables ? Mais les petits Congolais qu'on envoie dans les mines ne verront pas et n'utiliseront peut-être pas ces téléphones portables. Et puis, il pose la question de ce qui est essentiel et il pose la question notamment de l'eau. Et revient sur ces questions en montrant qu'elles sont posées quand même depuis longtemps. Déclaration de Rio de 1992.
Oui, dans cette déclaration de Rio, il est dit « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives qui empêcheraient la dégradation de l'environnement. »
Alors là, rappelons-nous, souvent, les dispositions prises, masquées, derrière des études. Ah bon, on va faire des études d'impact, et puis bon, au revoir et merci bien. Et puis, donc, il propose d'inverser la charge de la preuve et de se poser, avant de faire quoi que ce soit, la question, est-ce que l'activité ne va pas générer des dommages à l'environnement ou à ceux qui y habitent ?
Arraché à l'esclavage, nous avons trouvé le secret d'un nouvel âge, au parfum de liberté. Arraché à l'ignorance, nous pouvons choisir de briser tous les silences qui nous ferment la vie. Dans l'impatience, nous avons brûlé les remparts d'indifférence qui nous tenaient prisonniers. Façonnés dans la tendresse, nous forçons la vie à nous tenir ses promesses dans un monde en agonie.
Nous sommes toujours dans les mots de la foi et dans la lecture de l'encyclique du pape « Loué sois-tu ». La question qui se pose, c'est est-ce à dire que le pape veut s'opposer à toute innovation technologique ?
Non, pas à toute innovation technologique, mais la rentabilité ne peut pas être l'unique élément à prendre en compte. Et il faut analyser l'impact de ces innovations sur l'environnement et sur la vie des personnes.
Donc, avec tous, en tenant compte aussi de l'évolution de l'information, une décision qui a été prise peut être remise en cause parce qu'après tout, on perçoit qu'elle a un impact qu'on n'avait pas mesuré. Et bien évidemment, la responsabilité en revient aux politiques. Donc, le pape, c'est au numéro 189 et suivant, pose les questions des choix politiques et propose que politique et économie entrent en dialogue pour la plénitude humaine. L'économie ne doit pas être soumise au dictat d'efficacité de la technocratie ou de la finance, et par contre au service de la vie, et spécialement de la vie humaine. Et il pose l'exemple des banques,
oui.
Ce qui est assez... Non pas humoristique, c'est assez triste finalement de voir que c'est cela le critère qui a été pris notamment au moment de la crise de 2008. Et le pape est très sévère là-dessus.
Oui, il dit qu'il n'y a pas eu de réaction qui aurait conduit à repenser les critères obsolètes qui continuent de régir le monde au moment de cette crise.
Donc, songeons à nos politiques hein, qui fonctionnent en fonction de critères obsolètes. En gros, leur portefeuille.
Et ces critères qui conduisent à la surproduction de certaines marchandises, avec un impact inutile sur l'environnement, qui porte préjudice à de nombreuses économies régionales, dit le pape.
Songeons à toutes les délocalisations, par exemple, uniquement justifiées pour des questions de la main-d'œuvre est moins chère, donc l'économie du jetable, n'est-ce pas? Et puis, il pose la question de l'économie réelle à laquelle on doit porter attention et non pas l'économie fictive qui fait circuler des milliards qui ne correspondent à aucune activité réelle.
Et donc, dans ce contexte, il rappelle que la protection de l'environnement ne peut pas être assurée uniquement en fonction du calcul financier des coûts et des bénéfices. L'environnement fait partie de ces biens que les mécanismes du marché ne sont pas en mesure de défendre ou de promouvoir de façon adéquate.
Donc ça veut dire qu'à la limite, il faut sortir des problèmes comme la santé, comme l'eau, de manière de voir strictement financière.
Il faut éviter, dit-il, une conception magique du marché qui fait penser que les problèmes se résoudront tout seuls.
Ou par la magie des bénéfices des entreprises ou des individus, sauf que ce ne sont pas tous les individus qui profitent de ces affaires. Donc le pape propose de penser d'abord aux effets environnementaux et à ce qu'on laissera aux prochaines générations, en disant qu'il est important de prendre en compte sérieusement la valeur réelle des choses, leur signification pour les personnes, pour les cultures, pour les intérêts et les nécessités des pauvres. Alors, il ne s'agit pas de prétendre arrêter le progrès, mais d'ouvrir large les horizons, de percevoir que la diversification d'une production plus innovante peut avoir un moindre impact sur l'environnement et que peut être très rentable, et qu'il s'agit d'ouvrir des chemins à différentes opportunités qui n'impliquent pas d'arrêter la créativité de l'homme et son rêve de progrès, mais d'orienter cette créativité, cette énergie vers des voies nouvelles. Et il nous propose un certain nombre de techniques.
Oui, alors par exemple, un chemin de développement plus créatif, mieux orienté, pour corriger le fait de cet investissement technologique excessif pour la consommation qui est fait pour résoudre les problèmes. Des formes intelligentes et rentables de réutilisation, de recyclage. On pourrait améliorer l'efficacité énergétique des villes.
Alors, ce qui est intéressant, c'est cette ouverture vers la créativité humaine. La diversification ouvre d'immenses possibilités à l'intelligence humaine pour créer, innover, en même temps qu'elle protège l'environnement et crée plus d'emplois. Une créativité, je cite, « capable de faire fleurir de nouveau la noblesse de l'être humain, parce qu'il est plus digne d'utiliser l'intelligence avec audace et responsabilité » pour trouver des formes de développement durables et équitables. Et au contraire, il est moins bon de continuer à piller la nature pour offrir de nouvelles possibilités de consommation, tout simplement.
Donc le pape ajoute que si dans certains cas, le développement durable entraînera de nouvelles formes de croissance, dans d'autres cas, il faudra penser à marquer une pause en mettant des limites raisonnables, voire à retourner en arrière avant qu'il ne soit trop tard.
Et pour cela, il s'appuie d'ailleurs sur les propos de son prédécesseur, et ce sera la fin de notre émission. Benoît XVI affirmait qu'il est nécessaire que les sociétés technologiquement avancées soient disposées à favoriser des comportements plus sobres, réduisant leurs propres besoins d'énergie et améliorant les conditions de son utilisation, pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès et donc on doit convertir le modèle de développement global. Et cela, eh bien nous retrouverons la prochaine fois. Et aux éditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.